Si vous voulez vous asseoir, nous allons débuter cette matinée. Ce matin même, je reçois sur mon mail un message de M. Marcos Guevara de l'école d'anthropologie de l'Université du Costa Rica et qui me dit « Nous aimerions, moi-même ainsi que d'autres collègues ethnologues, anthropologues et philosophes du Costa Rica, faire parvenir à M. Claude Lévi-Strauss, membre de votre académie, à vrai dire, là il y a peut-être un syncrétisme entre l'Académie française et le Collège de France, nos félicitations en l'honneur de ses 100 ans vendredi prochain. » Et effectivement, nous voilà aujourd'hui pour un colloque qui est particulièrement passionnant dans la mesure où il va traiter de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss. Et j'aimerais vous accueillir, non seulement en mon nom propre, au nom du Collège de France, mais aussi au nom de Danielle Hervieux-Léger, qui est présidente de la EHESS, et de Jean-Claude Vaquet, président de l'EPHE. Quelques mots pour vous dire donc que Claude Lévi-Strauss, qui a traversé ce siècle, l'a marqué profondément par la refondation de l'anthropologie en France au sortir de la guerre, mais aussi par ses réflexions, ses écrits qui ont couvert de nombreux territoires, tels que l'esthétique, la philosophie de la connaissance, le racisme, la responsabilité des humains vis-à-vis des non-humains. Dans un interview qu'il donnait et qui a été repris par Didier Héribon, Claude Lévi-Strauss, en réponse à une question « Quels avantages avez-vous trouvé à travailler en dehors de l'université traditionnelle ?» Claude Lévi-Strauss répondait « Une plus grande liberté ». Et en un sens, une concession à un esprit indiscipliné. Les obligations précises et régulières me rebutent. Un professeur au collège n'est soumis à d'autres obligations que celle de traiter chaque année un sujet nouveau. Cela m'allait tout à fait. Et il parle de liberté féconde et de la possibilité, finalement, de transformer ses cours en livres. Les cours du Collège de France, disait-il, me servaient de banc d'essai. Et ceci est toujours vrai, toujours d'actualité, notamment dans le domaine des sciences littéraires, des sciences humaines et sociales. Claude Lévi-Strauss a ouvert, a créé le laboratoire d'anthropologie sociale en 1960-1965. Il s'est installé ici, dans le bâtiment Chalgrin, jusqu'à ce qu'il aille en 1985 sur le site Cardinal Lemoine, où il est à l'heure actuelle toujours installé et où Claude Lévi-Strauss a toujours son bureau. Plutôt que de succession, plutôt même que de filiation, Claude Lévi-Strauss a laissé après lui des collègues prestigieux, Françoise Héritier, titulaire de la chaire d'études des sociétés africaines de 1982 à 1995, et Philippe Descola, titulaire actuel de la chaire d'anthropologie de la nature depuis 1998. Donc je vais vous laisser avec les différents orateurs. Ici, vous voyez cette succession intellectuelle qui est illustrée par ces photographies. Je vais vous laisser donc avec les différents orateurs qui vont traiter de ce colloque, en vous disant simplement qu'un effort particulier a été fait au Collège pour rédiger une lettre hors série du Collège de France avec Marc Hirsch et Patricia Légout. Cette lettre du Collège est réellement intéressante. Elle comprend notamment des témoignages, mais aussi deux textes inédits de Merleau-Ponty, qui a d'abord proposé la création d'une chaire d'anthropologie et sociale, et ensuite qui a proposé le candidat Claude Lévi-Strauss avec le succès que l'on sait. Claude Lévi-Strauss est toujours avec nous. Il ne pouvait pas, certes, être physiquement aujourd'hui avec nous, mais il est avec nous par sa pensée. Et donc, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici, de laisser la parole à Philippe Descola, qui va introduire et présenter ce colloque en détail. À Philippe, donc, de prendre le relais. Merci.
Madame la présidente de l'École des hautes études en sciences sociales, monsieur le président de l'École pratique des hautes études, monsieur l'administrateur du Collège de France, chers collègues, chers amis, Claude Lévi-Strauss, vous le savez tous, va fêter son 100e anniversaire dans quelques jours. C'est là un événement d'ordre privé qui n'offre pas matière à célébration au-delà du cercle de ceux qui lui portent admiration, affection ou amitié. Mais si cette date signale la longévité de la personne, elle est aussi un symbole de la longévité d'une œuvre qui a marqué de son empreinte la plus grande part d'un long XXe siècle. La première publication de Claude Lévi-Strauss date en effet de 1926. Certains d'entre vous ici la connaissent, c'est une petite brochure de 37 pages sur Gracchus Babeuf, publiée à Bruxelles par la maison d'édition du Parti ouvrier belge et écrite par un étudiant socialiste de 18 ans qui critique le droit de propriété, exalte les utopies communistes du XVIIIe siècle et laisse transparaître une admiration pour Rousseau dont toute son œuvre postérieure est imprégnée. La dernière publication de Claude Lévi-Strauss remonte à quelques mois à peine, c'est la réunion dans la bibliothèque de la Pléiade d'une partie de son œuvre, suite à un choix qu'il a fait lui-même, et qui lui a fourni l'occasion aussi de réviser les développements du chapitre 8 de La pensée sauvage concernant Auguste Comte. Il donne à ce dernier le mérite d'avoir, tout comme lui, cherché à atténuer la séparation entre raisonnement logique et expression de la sensibilité. Et il découvre même, dans les pages tardives du système de politique positive, un pressentiment de ce que la pensée sauvage, le fétichisme dans les termes de Comte, est, tout comme il l'affirme lui-même, une dimension de la pensée, une autre dimension de la pensée domestiquée par la science. Bref, entre ces deux dates, celle de la réflexion sur Babeuf et celle de la réflexion sur Comte, 80 ans se sont écoulés. 80 ans ponctués par une trentaine de livres et par plus de 400 articles qui ont refondé, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Corvol, l'anthropologie en France et qui l'ont orienté ailleurs vers des voies nouvelles. 80 ans de réflexion sur la nature de la vie sociale, sur le destin des peuples, sur le procès de connaissance, sur l'émotion esthétique, réflexion que nous commençons à peine à mettre en valeur et dont maints jeunes philosophes se sont maintenant emparés afin d'en examiner les conséquences dans l'ordre d'un remaniement des concepts dont nous nous servons pour comprendre le monde et sa chatoyante diversité. Bref, cette semaine du 100e anniversaire de Claude Lévi-Strauss offrait l'occasion de revenir sur le parcours intellectuel d'un auteur qui est devenu un classique bien avant de rentrer dans la Pléiade, comme on dit, et dont les contributions, pour attacher qu'elles puissent être à une austérité scientifique sans concession, ont néanmoins su séduire un lectorat beaucoup plus vaste que les quelques collègues auxquels elles étaient destinées. Alors, il y avait mille manières d'envisager ce parcours, et aucune d'entre elles ne lui aurait pleinement rendu justice. Celle qui a été choisie pour ce colloque a pour objet de proposer une sorte de coupe géologique des différents types de matériaux que Claude Lévi-Strauss a apportés à la pensée au fil du temps. Ces matériaux, il les a extraits d'abord de l'ethnographie, en particulier de l'ethnographie d'une région du monde où sa vocation s'est fortifiée dans l'expérience de terrain et dont il connaît admirablement les habitants autochtones pour avoir lu sur eux à peu près tout ce qu'il était possible de lire. On parlera donc ici, inévitablement, des effets de l'anthropologie lévi-straussienne sur la connaissance des Indiens d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord et aussi du rôle majeur qu'ont joué les particularismes culturels de ces derniers dans la définition des problèmes que cette anthropologie a cherché à résoudre. Mais cette gourmandise pour les faits, cette attention méticuleuse à la complexité du réel, cet appétit pour les particularités parfois étranges qui donnent une saveur propre aux institutions, aux techniques, aux récits. C'est tout autour du monde que Lévi-Strauss lui a donné libre cours, car c'est tout autour du monde qu'il a voulu donner sens à l'ethnographie en replaçant des données en apparence sans lien entre elles au sein de subtiles et parfois grandioses constructions analytiques qui non seulement permettaient d'expliquer ces données par leur position au sein d'un modèle, mais qui contribuaient souvent, ce faisant, à apporter un éclairage nouveau sur une face cachée de la condition humaine. Les questions que l'anthropologie structurale a voulu résoudre ne sont donc pas spécifiquement américaines. Du statut de l'affinité en Mélanésie, à la logique des systèmes de mariage des hautes terres de Birmanie, en passant par le symbolisme de la chasse aux têtes en Indonésie ou les effets de la filiation cognatique en Afrique, et il n'y a peu de problèmes classiques de l'ethnologie que Lévi-Strauss n'ait pas abordé. De ces problèmes qui animent la communauté savante au jour le jour et qui lui donnent le sentiment d'une identité partagée. Et c'est de cela aussi que nous parlerons dans l'évocation de ce parcours. Claude Lévi-Strauss est tout particulièrement reconnu par les anthropologues pour sa contribution dans deux domaines clés de la discipline qu'il a bouleversé de fond en comble. Que l'on soit ou non d'accord avec lui, et il ne s'agit d'ailleurs jamais, dans la plupart des cas, que d'accord ou de désaccord partiel, il est devenu impossible de ne pas se situer par rapport à lui lorsque l'on aborde l'étude des systèmes de parenté et l'étude des mythes. Il a révolutionné l'approche des premiers en développant une théorie des systèmes de mariage en ordonnant ces derniers de façon systématique et en examinant leurs effets structurants sur d'autres aspects de la parenté, par contraste avec des perspectives antérieures, à l'époque d'ailleurs très peu connues en France, qui mettaient l'accent plutôt sur les fonctions sociologiques des différents types de filiation ou sur l'organisation de l'espace social au moyen des nomenclatures de parenté. Quant aux mythes, la manière qu'il a choisie pour les aborder était tellement nouvelle, tellement à l'encontre de ses habitudes, que les spécialistes du folklore et de la littérature orale avaient prise pour traiter les documents de ce genre, que jusqu'à ce jour, bien peu sont ceux qui se sont risqués à le suivre dans cette voie. C'est que l'analyse structurale des mythes requiert un ensemble de qualités rarement réunis dans une seule personne, une intuition pénétrante des propriétés contrastives offertes par les personnages et les événements des récits, un savoir immense concernant non seulement des milliers de mythes, mais encore les caractéristiques propres à la culture et à l'environnement des peuples qui les ont produits. Enfin, l'aptitude à sauter de mythe en mythe, en suivant le fil ténu d'un motif, non pas substantif, comme dans la mythologie traditionnelle, mais un motif logique, opératoire, en perpétuelle transformation du fait des mutations que la pensée de l'analyste décèle en lui à mesure qu'il se déplace dans l'espace. On est loin ici de la typologie formelle, une entreprise sans doute utile, mais peu génératrice de sens, on est encore plus loin de la vaine quête d'archétypes dans laquelle tant de mythologues se sont fourvoyés. Et tous ceux qui ont lu les mythologiques ont été proprement abasourdis par la virtuosité avec laquelle Lévi-Strauss construisait une intelligibilité propre du mythe, non pas en plaquant une grille de lecture préalable, mais en construisant ces outils et ces matériaux chemin faisant, comme l'artisan adapte ses instruments et son projet à la nature du matériau. C'est donc un art, une techné, que l'analyse des mythes, lorsqu'elle est menée avec cette maîtrise et avec ce brio, mais un art si difficile qu'il est à peu près impossible à émuler. Voilà pourquoi il fallait aussi parler de la parenté et des mythes. On sait que la réflexion sur l'art constitue une dimension fondamentale du projet lévi-straussien. Non seulement sa réflexion sur les arts amérindiens du Brésil et de l'Amérique du Nord, mais aussi sur les grandes œuvres de la peinture, de la littérature et de la musique dont la civilisation occidentale peut légitimement s'enorgueillir. Mais ces réflexions ne sont possibles que si l'on traite chacune de ces œuvres en savant, cherchant à définir ses propriétés avec les outils et avec l'érudition de l'ethnologue lorsqu'il s'agit de l'art des civilisations extra-européennes, avec les outils et avec l'érudition de l'historien de l'art lorsqu'il s'agit de Clouet, de Poussin ou même de Delvaux. C'est à ce prix seulement qu'une science du style devient possible et que les propriétés d'un objet, d'une image, d'un morceau de musique peuvent éclaircir ou éclairer d'autres traits d'une culture avec lesquels elle forme système et contribuer ainsi tous ensemble à comprendre comment des sociétés diffèrent entre elles de façon systématique. Il en va de même, bien que la chose soit moins visible, dans les choix techniques et économiques, combinaisons possibles dans un répertoire idéal au sein duquel chaque société puise en fonction des ressources qu'elle peut actualiser et des autres choix qu'elle a opérés ailleurs dans le traitement des humains et des non-humains. Dans l'œuvre de Lévi-Strauss, cette dimension est moins visible, disais-je, car il a choisi de reconduire le vocabulaire de Marx, opérant ainsi une dissociation de droit entre l'étude des infrastructures et l'étude des superstructures, dont il a entrepris, bien évidemment, l'étude, justement, une dissociation qui a que toute son œuvre démentit pourtant, dans les faits. C'est donc aussi d'art et d'économie qu'il nous faudra parler. Enfin, et bien que Lévi-Strauss s'est toujours récusé être philosophe, son œuvre possède une portée philosophique qui a tout de suite été reconnue et avec laquelle des grands noms de la philosophie, Pierre Corvol citait tout à l'heure Merleau-Ponty, mais aussi Sartre, Ricoeur, Lévinas, Foucault, Deleuze, Althusser ou Derrida, pour ne citer que ses contemporains immédiats, avec laquelle donc ces philosophes ont engagé un dialogue souvent passionné et presque toujours entaché de malentendus, parfois très profonds. Sa conception de la vie sociale, comme échange symbolique, sa manière si nouvelle de rendre compte du passage du sensible à l'intelligible, ses vues sur l'histoire, sur la contingence, cette façon originale de renouveler le kantisme en y injectant des acquis de la phénoménologie, tout cela ne pouvait laisser les philosophes indifférents, et c'est donc aussi de philosophie que nous allons parler. Nombreux sont ceux qui auraient pu évoquer aujourd'hui l'une ou l'autre des questions que je viens de mentionner, et je réclame donc pour le choix que j'ai fait des personnalités invitées à s'exprimer dans ce colloque un privilège d'arbitraire, tempéré toutefois par des complicités parfois fort anciennes et surtout par la connaissance que j'ai de la haute estime que Claude Lévi-Strauss porte à chacun d'entre eux. J'ai dit tout à l'heure que Claude Lévi-Strauss était devenu un classique bien avant d'entrer dans la Pléiade. Or, une œuvre classique, c'est une œuvre suffisamment dégagée des circonstances historiques de son élaboration pour qu'elle paraisse atemporelle et puisse continuer, sans risque d'anachronisme, à exercer des effets dans la pensée. En rendant hommage à un grand esprit, nous ne le fossilisons pas, nous ne le faisons pas entrer au musée, bien au contraire. Nous faisons la part des ébranlements qu'il a déjà causés et peut-être et surtout de ceux que son œuvre va continuer à produire. Dans un texte récent, Eduardo Viveros de Castro rappelait une formule favorite de Claude Lévi-Strauss. ce n'est pas tout. On la trouve notamment à maintes reprises dans les mythologiques, au terme apparent d'un développement généralement éblouissant dans lequel Lévi-Strauss convoquait une foule de détails, de faits disparates, des trésors d'érudition, une ingéniosité sans pareille, afin d'expliquer pourquoi telle espèce de plante ou telle constellation était en rapport avec l'origine des instruments de musique ou la crue des rivières. Chapeau l'artiste, se disait-on, si vous me pardonnez cette familiarité. Et voilà que la formule « ce n'est pas tout » permettait à l'analyse d'embrayer à nouveau, la faisant repartir dans des directions inattendues. Et voilà que le magicien sortait de son mouchoir de nouvelles associations, de nouvelles qualités secondaires, de nouveaux phénomènes, faisant surgir sous nos yeux médusés, des arcs-en-ciel, des oiseaux multicolores, des sonnailles, des tempêtes, que sais-je encore. Eh bien, ce colloque, c'est sous le signe de « ce n'est pas tout » que j'aimerais qu'il se place comme une série d'aiguillages branchés sur des voies que Lévi-Strauss a ouvertes et dont nous pourrions explorer les prolongements pour, grâce à lui et avec lui, continuer d'explorer les chemins de l'intelligibilité dont il a indiqué les directions. Je voudrais terminer en remerciant très chaleureusement les participants au colloque d'avoir accepté d'y prendre la parole, certains venant de très loin pour cela, comme je remercie pour l'aide qu'elles m'ont apportée les trois institutions au sein desquelles Claude Lévi-Strauss a exercé ses fonctions, trois institutions qui lui ont donné précisément, comme le rappelait tout à l'heure Pierre Corvol, la liberté de parole nécessaire depuis, je crois, la première de ces institutions, à une année de différence, c'est l'ancienne école pratique des hautes études, 6e section, devenue l'école des hautes études en sciences sociales, puis un an après, l'école pratique des hautes études, et enfin, quelques années plus tard, le Collège de France. Donc ces trois institutions, je suis très heureux qu'elles soient associées à ce colloque qui vient célébrer l'un de leurs membres. Et je voudrais aussi remercier le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche qui a apporté son soutien financier à cette manifestation, comme à plusieurs autres qui marquent cette semaine d'hommage à Claude Lévi-Strauss. Vous aurez vu sur le programme qu'il y aura deux autres conférences, l'une demain, ici même, dans cette salle de Dan Sperber, et une autre conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, dans le grand amphithéâtre, de Daniel Fabre, sur un aspect peu connu de Claude Lévi-Strauss, et Claude Lévi-Strauss et le judaïsme. Merci. Je vais maintenant céder la parole et la présidence de cette session de ce matin à Fred Adler et merci d'être présents si nombreux.